Nous lirons dans les Colossiens. Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances ? Chapitre 3. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, la cupidité qui est de l'idolâtrie. Verset 8. Mais maintenant renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point, l'un à l'autre ayant dépouillé le vieil homme. Verset 10. Et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Où Christ, fin du verset 11, où Christ est tout et en tous. Verset 12. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est donc une partie un peu plus pratique de l'épître aux Colossiens, enfin tout est pratique, mais les chapitres 1 et 2, chapitre 1 a présenté par-dessus tout l'excellence de la personne du Seigneur et toutes ses, non seulement ses gloires, mais sa divinité et la plénitude qu'il y a en lui. Chapitre 2 nous a déjà montré les conséquences quant à notre chemin, quant à notre position. Et alors, dans ce que nous avons lu, nous entrons dans les choses très pratiques. Alors, on voit donc dans le début de ce que nous avons lu, on voit deux choses, verset 20, si vous êtes mort avec Christ, chapitre 3, verset 1, si donc vous avez été ressuscité avec le Christ. Alors on voit déjà ces deux choses dont il est aussi parlé ailleurs, mais spécialement donc ici, où on est mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Alors cette question de mort avec Christ, il en a déjà été parlé dans le verset 11 du chapitre 2 en rapport aussi avec le baptême, et puis donc la résurrection avec Christ du chapitre 3, il en a été parlé aussi déjà au chapitre 2 verset 12. Donc ça nous a été présenté comme la position qui nous a été donnée, et maintenant nous avons les versets qui en tirent la conséquence pratique. Alors, dans les conséquences pratiques d'être ressuscité avec Christ, il y a donc la première de toutes. La première chose de toutes, c'est chercher les choses qui sont en haut. Alors, verset 2, pensez aux choses qui sont en haut. Et puis, verset 5, mortifiez vos membres qui sont sur la terre. Verset 8, renoncez à une série de manifestations extérieures. Et puis ensuite, il est question de revêtir Christ, au point que lui est tout et en tous. Alors, ce qui frappe dans ce chapitre, ce qui frappe en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont frappantes, ce qui frappe, c'est que au fond, quelles sont les actions, les œuvres qui nous sont demandées? Mais je dirais, en un sens, il n'y en a point. C'est chercher les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, penser aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Alors, c'est pour cela, à cause de ces versets, que on présente souvent l'épître aux Colossiens comme présentant le chrétien marchant sur la terre et regardant vers les choses d'en haut. Là, il nous est dit de les chercher, de les chercher. Alors on dira, mais on sait bien qu'on est sauvé, on sait bien que le Seigneur va venir nous chercher, on sait bien que le Seigneur est ressuscité, glorifié, mais il y a une recherche positive, mais des choses qui sont en haut. Et on a cette expression du verset 2, pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Alors, ce verset est toujours étonnant, et il est tellement en opposition totale avec le monde actuel, non seulement le monde actuel, mais le monde religieux actuel, monde religieux qui est axé sur il faut faire, il faut avoir tel objectif, il faut sauver la planète, il faut sauver l'humanité, etc. Comment il faut faire? C'est, on pense aux choses de la terre. Comment survivre? Comment modifier le comportement de l'homme? Et la parole est formelle ici. Ne pensez pas aux choses qui sont sur la terre. Alors on dira, mais bien sûr, mais on est bien quand même obligé de vivre, on est obligé de gagner sa vie, et non seulement cela est vrai, mais cela est pris en considération dans cet épître même, puisque dans la fin de ce chapitre 3, il y a des indications sur le comportement relatif dans la famille, les femmes, les maris, les enfants, et même à l'intérieur de la société, les esclaves et les maîtres. Et donc, il s'agit bien de relations terrestres, et elles ne sont pas, non seulement elles ne sont pas mises de côté, mais elles ne sont pas méprisées, ces relations, relations de famille, femmes, maris, enfants, relations et pères, relations donc de société, professionnelle, esclave, maître, tout ça, mais néanmoins comme, je dirais, comme pensée, comme chose qui nous occupe, c'est ne pensez pas aux choses qui sont sur la terre. Alors, encore une fois, on dira, mais il faut bien que je vive, il faut bien que je survive, mais c'est vrai, mais l'important, il n'est pas là. Et ce qui est la, la recherche, le soin, l'énergie que nous avons à développer, c'est chercher les choses qui sont en haut. Et alors, on risque de le considérer comme une ordonnance, une obligation. Et alors, c'est pour cela que c'est aussi important, chapitre 2, verset 20, si vous êtes mort avec Christ. Mais ce n'est pas seulement mort avec Christ de manière abstraite, c'est mort avec Christ aux éléments du monde. Et alors, on voit, c'est vrai qu'on doit vivre dans le monde, mais au fond, on n'a pas de, il est dit, d'ordonnance à établir, mais c'est comme si, donc on l'a évoqué d'ailleurs dans certaines prières, où la mort avec Christ sépare du monde. On est mort avec Christ aux éléments du monde. Alors on dira, mais moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais ça fait partie des choses que nous avons à recevoir humblement et paisiblement, comme le dit la parole. La parole l'exprime, le formule. Nous avons à le recevoir et à chercher à comprendre, à tirer parti, tirer les conséquences de cela pour nos vies. Mais on voit un objectif, chercher les choses qui sont en haut. Et puis, on a ce verset 3, « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Alors ça, c'est... Alors il y en a, on dit quelquefois aussi, « Faut pas cacher notre drapeau. » C'est pas faux, mais c'est une toute autre pensée. Dans le chapitre 4, au verset 5, il est dit « Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. » On a, vis-à-vis de gens du monde, on n'a pas à se cacher, mais il n'est pas dit qu'on doit se cacher, il est dit que notre vie, et la vie que nous avons comme croyants, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Mais elle doit certainement se manifester, mais c'est pas ce que nous avons tellement à montrer, à manifester. Parce que c'est notre vie, elle est cachée avec Christ. Et alors c'est cette pensée de avec Christ, on retrouve alors d'autres déclarations qu'on a, qui se trouvent dans la même épître, où il est parlé de chapitre 2, versets 9 et 10. « En Christ habite toute la plénitude de la Déité corporellement, et vous êtes accomplis en lui. » Et puis, on a ce verset bien connu qu'on cite souvent, de chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est-à-dire que c'est ce qui est présenté, c'est que le Seigneur, Christ lui-même, est en nous. C'est notre vie. Nous vivons de ça, nous vivons de sa vie. Alors, on dira, peut-être certains diront, mais moi je ne comprends pas. Mais le problème n'est pas d'expliquer de façon rationnelle pour comprendre, mais le problème est de recevoir ce que la parole nous dit. Et la parole nous dit que nous avons une vie. Et alors bien sûr, c'est à la nouvelle naissance que cette vie apparaît. C'est aussi à la nouvelle naissance que cette vie éternelle nous est donnée. Cette vie éternelle, dans Jean 17, la connaissance du Père et du Fils. Mais ici, c'est présenté un peu autre chose, c'est présenté que cette vie, c'est Christ lui-même, il est en nous, mais c'est caché. Alors, c'est pas que nous cherchons à le cacher, c'est pas que nous cherchons à cacher notre drapeau, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais nous avons une vie qui est cachée. Alors, un jour, ça sera manifesté publiquement. Publiquement. Quand vous serez manifesté avec lui en gloire. C'est que quand Christ fera son apparition en gloire, alors ça sera montré, visible devant le monde, que nous sommes avec lui. Alors on dira, mais alors cette vie est cachée, donc il n'y a rien à faire, on reste caché dans notre coin. Alors tout le reste de ce que nous avons lu montre bien le contraire. D'abord, il y a des conséquences de cette vie qui est en nous. Alors une conséquence, c'est qu'il y a... Il y a une mortification et puis des choses à renoncer. Alors les mortifications, il est dit vos membres. Alors c'est pas, il ne s'agit pas de membres concrets, matériels. Ce n'est pas comme les moines qui se font des flagellations ou selon le chapitre 2, verset 23, ceux qui n'épargnent pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur, qui s'infligent des afflictions. Et que en fait ça honore la chair. C'est donc pas du tout des membres matériels concrets, c'est des membres moraux, fornication, impureté, affection déréglée, mauvaise convoitise, cupidité, c'est des choses, disons, des profondeurs qui caractérisent le vieil homme. D'ailleurs, dans les Romains, je crois, il est dit « tenez-vous vous-même pour mort », mais ici, c'est dit un peu différemment, il est dit « mortifié ». Alors peut-être qu'on dira « mais nous, on n'en est pas à ce stade-là », mais on n'en est pas à ce stade-là, mais il faut bien recevoir l'Écriture que le vieil homme, et l'exhortation est donnée aux Colossiens, mais à tous et à nous, bien le vieil homme, il en est à ça. À la fornication, à l'impureté, aux affections déréglées, à la mauvaise convoitise, cupidité, qui est finalement de l'idolâtrie. Alors on voit le vieil homme qui est, non seulement qui est tombé très bas, mais qui est en permanence caractérisé par un état très bas. Alors il n'y a aucune amélioration à espérer, c'est le mortifier. Mais c'est les choses... il faut les accepter aussi comme la parole les donne. D'un côté, au chapitre 2, verset 20, c'est « Vous êtes mort avec Christ ». Alors on dit « si on est mort, il n'y a pas à mortifier ». Mais pourtant, les deux choses ont leur place. Il y a à accepter ce que Dieu a fait et la position il nous a mis, si vous êtes mort avec Christ, mais en même temps, il y a l'exhortation à mortifier. Mais alors, ça c'est le vieil homme, c'est le fond, on dira, d'accord, c'est tout ça, c'est très, très vilain, on le rejette. Mais il ne faut pas qu'il y ait de manifestation extérieure, alors ça, c'est à partir de cela qu'on a verset 8 et suivant. Renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, parole honteuse, le mensonge ensuite, et... Alors il est bien dit le vieil homme, mais c'est plutôt le vieil homme avec ses actions, c'est dans ses manifestations. Dans les versets 5 et 6, c'est le fond, puis dans les versets 8 et 9, c'est des manifestations. Ayant revêtu le nouvel homme. Alors ce nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais celui qui a créé, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui a fait la nouvelle naissance, le nouvel homme en nous, et on doit être à l'image représenter Christ dans notre vie. Il est notre vie, et notre vie doit le manifester. C'est le revêtir, quand il est dit revêtir, c'est comme on a dépouillé le vieil homme, il reste rien, le nouvel homme prend toute la place quand on est revêtu. Mais c'est revêtu selon l'image de celui qui l'a créé. C'est pas revêtu simplement en faisant un peu de bien, un peu de bonnes actions, un peu de bonnes œuvres. Non, c'est selon l'image du Christ. C'est lui qui est notre vie. Et c'est ça le critère clé, au point que donc tout ce qui est des caractéristiques anciennes, grec, juif, barbare, scythe, esclave, incirconcision, tout ça est mis de côté. Christ est tout, il est tout, c'est notre vie. Et alors, si Christ est notre vie, ça se traduit aussi par des manifestations positives. Dans les versets 5 et 8, c'est des manifestations, c'est du négatif, ce qu'il faut mortifier, ce qu'il faut renoncer. Et puis verset 12, ce qu'il faut revêtir positivement. Mais revêtir positivement, d'un côté, on a à le revêtir, mais d'un autre côté, c'est Christ qui est notre vie. Alors ça se manifeste directement. Mais alors je reviens encore à une autre chose qui est très frappante dans ce chapitre. C'est la question des œuvres et des bonnes œuvres. Alors, bien sûr, il y a de nombreux autres passages de la parole qui parlent de toutes les bonnes œuvres qu'on a à accomplir. Il y a la propagation de l'Évangile, mais bonnes œuvres en général. Alors, je voudrais lire à cet égard un passage qui est aussi bien connu, mais qui est dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, c'était l'état initial, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vivifié, c'est rendu vivant, c'est donner la vie. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble. Il a vivifié, ressuscité. C'est, disons que c'est ces deux choses qui sont un peu différentes. Et d'ailleurs que dans Colossiens, on a cela aussi, parce que dans ce que nous avons lu, Colossiens chapitre 3 verset 1, ça commence par « si vous avez été ressuscité » et puis ensuite « votre vie est cachée avec Christ ». Donc il y a d'une part la résurrection et d'autre part le fait qu'on a la vie. On retrouve cette distinction d'ailleurs dans le chapitre 2 des Colossiens, parce que ici il est parlé de chapitre 2 verset 12, dans le baptême dans lequel vous avez été ressuscités ensemble par la foi, et verset 13, lorsque vous étiez morts dans vos fautes, il vous a vivifié ensemble. La parole fait effectivement une distinction entre le fait d'être ressuscité et le fait d'avoir reçu la vie. Mais le côté de reçu la vie, il est spécialement donc mis en relief dans ce chapitre 3. Alors je reviens à Éphésiens 2, je continue ce que j'ai débuté de lire. Chapitre 2, verset 6. Donc, il nous a ressuscités ensemble, mis dans une nouvelle position de ressuscité, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Je passe verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. » Alors, je reprends le détail de ces versets. C'est très frappant. Il est dit « nous a ressuscités ensemble ». Conséquence, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas du tout les Colossiens. Les Colossiens, il est dit « comme on a été ressuscité, il faut chercher les choses qui sont en haut ». Dans les Éphésiens, c'est le contraire. Vous êtes ressuscité, il n'y a pas besoin de chercher les choses qui sont en haut, puisque vous êtes déjà assis ensemble dans les lieux célestes. Alors, il faut pas considérer ça comme... Il y a une contradiction apparente, mais cela arrive très souvent dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament et dans les écrits de Paul, c'est qu'il y a plusieurs aspects qui sont montrés. Il y a une façon de voir et puis une autre façon de voir. Et alors, dans les Éphésiens, la façon de voir d'être ressuscité, c'est qu'on est déjà assis ensemble avec le Christ dans les lieux célestes. Et alors, la conséquence, on dira, si on est au ciel, alors on en jouit du ciel et puis on ne fait plus rien. C'est tout le contraire. Il a dit... Nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance avec nous marchions en elles. Donc on voit cette chose étonnante, que c'est ceux qui sont assis au ciel avec Christ, c'est ceux-là qui sont préparés pour les bonnes œuvres. Et cette question des bonnes œuvres, elle revient à plusieurs reprises dans cette épître. Et puis c'est d'ailleurs dans cette épître que d'une part au chapitre 5, Éphésiens 5, soyez imitateurs de Dieu. Ensuite, chapitre 5, verset 8, marchez comme des enfants de lumière, fruit de la lumière. On voit que vous êtes enfants assis dans le ciel, et pourtant c'est comme ça que vous pouvez imiter Dieu et marcher comme des enfants de lumière. Et le chapitre 6, c'est le chapitre 6 qui parle du combat chrétien, où on a toute l'armure à revêtir, et le combat contre les puissances spirituelles de méchanceté. Alors on est très étonné, c'est frappé par les déclarations de la parole de Dieu, où on voit que c'est ceux qui sont assis dans les lieux célestes, c'est eux qui ont plein de bonnes œuvres, qui sont préparés pour ça, même c'est pas qu'ils ont juste à saisir des occasions, ils sont préparés pour ça, ils imitent Dieu, ils sont des enfants du maire, ils font le combat chrétien. On voit des chrétiens, disons, débordants d'activité, mais pas d'activité humaine, c'est d'activité pour les intérêts du Seigneur. Et alors, de façon étonnante, donc, dans les Colossiens, c'est pas ça du tout qui est placé. Et on est considéré plutôt comme marchant sur la terre, cherchant les choses qui sont en haut. Alors on dirait, bon, bah alors si on est sur la terre, c'est au moins là, on va pouvoir faire quelque chose et on va être efficace ici-bas. Et alors, voilà que la parole nous présente pratiquement le contraire, que ceux qui sont efficaces ici-bas, c'est ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Et alors, ceux qui marchent sur la terre, ils cherchent bien les choses qui sont en haut, ils visent ça, mais ils y pensent. C'est au fond, c'est comme si dans les Éphésiens, il était dit, ben, on y est, et puis dans les Colossiens, on y pense. Disons que, encore une fois, c'est des expressions étonnantes, et je ne cherche pas à les mettre en contradiction, mais à souligner que la parole de Dieu nous donne des aspects différents et qu'il faut vraiment méditer, réfléchir sur ces aspects différents et en tenir compte de tous. Alors, pensant aux choses qui sont en haut, pensant à Christ qui est assis à la droite de Dieu, le résultat, c'est qu'on a le désir pratique de mortifier les membres qui sont sur la chair, de renoncer aux manifestations extérieures de la chair, et à faire que cette vie de Christ, c'est pas à chercher à montrer cette vie de Christ, parce qu'elle est cachée et elle sera manifestée en gloire plus tard. Mais on a à la vivre. On a à la vivre, mais la vivre pas un peu. C'est la vivre au point que Christ est tout et en tous. C'est le verset 11. Alors, il y a plein aussi d'aspects tout à fait pratiques de ça. C'est à partir du chapitre 3, verset 12. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant. Pardonnant aussi comme Christ. Pourquoi comme Christ? Ben parce que Christ est notre vie. Alors on fait comme lui, et puis donc par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, et puis il y a la paix. La paix, on rappelle ce Jean 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, disait le Seigneur. Et on voit que c'est tout des caractères de Christ déjà ici-bas, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la longanimité, c'était la vie de Christ ça. Et puis l'amour et la paix, en surplus, mais c'est pas en surplus, c'est coiffant tout le reste. Et alors, dans les versets 16 à 17, on a que la parole du Christ habite en vous richement. Mais pour qu'elle habite en nous, richement, il faut d'abord l'avoir lu, l'avoir mémorisé, l'avoir médité, l'avoir digéré, l'avoir ruminé. Il faut qu'elle habite, il y a tout ça. Et donc c'est la place, la parole de Dieu, la parole du Christ, c'est la parole de Dieu, mais spécialement montrant Christ, qui prend une place énorme. Et alors, il y a deux façons aussi. Il est dit, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, on voit que les conversations mutuelles ont pour effet de s'exhorter l'un l'autre, et puis de chanter. Alors, je le dis pour moi-même, peut-être nous manquons probablement à chanter, parce qu'il ne s'agit pas seulement de chanter dans les réunions, c'est chanter, chanter tout le temps, chanter dans nos maisons, chanter en famille, chanter nous, je pense, mais je le dis pour moi, nous manquons à cet égard. Et alors, on a un résumé, quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alors ce verset est aussi frappant parce que, après toutes ces manifestations, on voit que Dieu veut d'abord et avant tout opérer en nous, nous mettre dans un état où il y a cette vie de Christ qui se manifeste. Il n'y a plus de tout ce qui est idolâtrie est mortifié, toutes les manifestations de la chair, on y a renoncé, on a revêtu les qualités de Christ. Alors, d'ailleurs, même dans les versets 12 à 13, quand il est dit « Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, bonté, humilité, douceur, longanimité », c'est encore, on peut dire, des manifestations extérieures de la vie de Christ. C'est-à-dire que la vie de Christ elle-même, elle est cachée, mais elle est cachée, sauf qu'elle se manifeste, et elle se manifeste comment ? Eh bien, par des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, support, pardon. On dit, oh ben ça, on reconnaît Christ à ça. Mais ça se reconnaît extérieurement, mais la vie elle-même, elle est cachée. C'est notre être intérieur. Alors on voit que tout ce chapitre 3 insiste sur notre état intérieur, sur cette vie de Christ qui a se manifester. Alors il y a même donc des exhortations, des cantiques. Et puis le verset 17 conclut. Regroupe tout globalement, quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et en rendant grâce, remercier, mais il vaut mieux dire rendre grâce que remercier, qui est beaucoup plus exact et profond et noble, et faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en parole ou en œuvre. Alors on voit les œuvres qui apparaissent ici. Mais alors, elles apparaissent comme résultat de toute cette insistance du chapitre presque entier sur l'état intérieur, sur ce qu'il en est de cette vie de Christ et de ses manifestations. Et alors, c'est une fois qu'il y a ça qu'on peut faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Alors, on dira, oui, mais alors, attends, dans tout ça, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de direction. Alors, quant aux œuvres, aux choses pratiques, on a bien, vis-à-vis du dehors, encore une fois, je reviens sur chapitre 4, versets 5 à 6, marcher dans la sagesse envers ceux de dehors, parce qu'il y a le dedans et le dehors. La parole est nette, il ne faut pas faire de la confusion. Saisissant l'occasion. Mais saisissant, alors, saisissant l'occasion, c'est pas construisant ou organisant des méthodes, des procédés, des structures. Il y a des occasions, des circonstances que Dieu permet. Il permet qu'il y ait des occasions pour, pour le servir, pour être dévoué, les intérêts du Seigneur, pour parler aux âmes. Et le verset 6 donne des détails justement sur cette façon de parler qui doit être toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel. Mais au fond, on voit que bien sûr il y a des œuvres, bien sûr il y a des choses à saisir, bien sûr il y a tout ça à faire. Mais ce qui occupe les pensées, ce qui axe nos orientations, nos directions, c'est pas je dois faire ceci, je dois montrer que je suis comme ça, je dois faire des choses positives. Ce sur quoi ce chapitre insiste, c'est vraiment notre état intérieur, mais état intérieur, il ne s'agit pas d'être occupé de soi en disant il y a des caractéristiques, est-ce que je les réalise ou je ne les réalise pas, parce que en cela encore, en s'infligeant encore des punitions, on serait capable encore de donner de la satisfaction à la chair. C'est chapitre 2, verset 23. Mais ce qui est placé devant nous, c'est constamment, c'est que la vie de Christ soit manifestée. C'est ça l'objectif. Alors, après, s'il y a des œuvres, eh bien, elles seront manifestées. Mais notre objectif, c'est vivre cette vie de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, je répète encore, ça, c'est les Colossiens. Les Éphésiens montrent autre chose. Il y a une autre différence qui est même très étonnante. C'est que dans les Éphésiens, on trouve beaucoup plus l'action de l'esprit, la présence de l'esprit. Vous avez été scellés de l'esprit, et puis vous êtes une habitation de Dieu par l'esprit, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit, etc. Il y a de nombreux versets sur l'esprit. Alors, on dit, ah mais attends, comment ça se fait? Dans les Éphésiens, on habite dans le ciel et l'esprit agit. Et dans les Colossiens, l'esprit, il a disparu. On est sur la terre et on pense aux choses d'en haut, il n'y a plus l'esprit. Et disons que c'est effectivement des choses étonnantes quant à la présentation. Mais il n'est pas dit qu'il n'y a plus l'esprit. L'esprit, il agit, il est quand même, c'est lui qui est, comme dans les Éphésiens, nous sommes, le croyant est scellé de l'esprit. Et puis l'habitation de Dieu par l'Esprit, elle est à vivre, s'appliquer à l'unité de l'Esprit. Mais au fond, c'est très frappant de voir que si les croyants sont présentés, comme dans les Éphésiens, comme assis dans les lieux célestes, alors là, l'encouragement pour faire les bonnes œuvres sur la terre, eh bien, l'encouragement, c'est que justement, il y a l'Esprit, et que l'Esprit va conduire pour les applications terrestres. Mais si les choses sont présentées, et je répète, c'est un autre aspect des choses, ce n'est pas un aspect contradictoire. Si les choses sont présentées, que nous sommes sur la terre, que pourquoi au fond il est dit tellement que la vie de Christ soit manifestée? Mais c'est parce que justement, les Colossiens avaient tendance à penser à autre chose qu'à Christ. Ils n'avaient plus la place importante dans leur vie. Donc il fallait que ce soit lui qui ait cette place, et qu'il fallait penser à ça et manifester sa vie à lui. Alors, dans ces conditions, ce chercher les choses qui sont en haut, c'était vraiment être occupé de Christ. Et le côté que l'Esprit opère ces choses, eh bien, c'est pas qu'il n'existe pas, mais il n'en est pas parlé, parce que l'objectif, c'est d'occuper les cœurs et les âmes de Christ. Alors, que nous puissions, si ces choses paraissent un petit peu obscures ou compliquées, que nous puissions les lire et relire et les méditer. Et effectivement, ces distinctions, pourquoi on compare souvent l'épître aux aux Éphésiens, aux Colossiens, parce qu'elles sont quand même proches dans ce qu'elles présentent nos bénédictions, ensuite elles présentent notre position, ce que nous avons à faire. Et il y a des versets même très semblables dans les deux, donc c'est des épîtres qui sont à comparer. Mais les comparant, on s'aperçoit de différences énormes. Mais c'est important aussi de saisir ces différences et puis de méditer sur le pourquoi de ces différences, mais que cela nous conduise tous à davantage manifester la vie de Christ.